Salut à tous, bienvenue à Effet Sonore, un nouvel épisode d'Effet Sonore, l'émission où tous les styles et toute la musique est permise tant que ça nous fait de l'effet. Jean Rousier avec vous, accompagné de Eliane Touin. Salut Eliane.
Allô, bon après-midi.
Bon après-midi, comment ça va?
Ça va bien.
Ça va bien? Parfait. Moi aussi, ça va bien. Puis aujourd'hui, on a un invité avec nous.
Qui va bien, lui aussi.
Salut Mathieu, ça va bien?
Ça va,
Mathieu Aubre est avec nous.
Je suis comme excité d'annoncer ça va être quoi le thème, parce qu'on est vraiment ailleurs.
On est ailleurs.
Oui. Ouais, on est ailleurs, puis on est le lendemain de Saint-Valentin, puis moi je disais que le sujet dans lequel on va parler, c'est un des plus romantiques. Mais on sera pas dans vos meilleures chansons
d'amour. Ben, on a des compositeurs romantiques, d'ailleurs, dans
cette
émission.
C'est vrai. Bien, bien
avez-vous
vu.
Deviné? Les plus érudits auront peut-être deviné de quoi qu'on parlait.
Aujourd'hui, on va se transporter dans la musique classique. T'sais, une belle grosse virée classique. Et non pas des classiques de la musique, mais la musique classique. Puis la raison pourquoi Mathieu est avec nous, vas-y.
Pourquoi il est avec nous? Ben, c'est la personne qui connaît plus la musique classique
oui,
qu'on
en fait,
connaît.
En fait,
il nous a aussi dit il est temps que vous fassiez un épisode classique. Faut pas l'oublier, ce style-là, parce qu'on est resté plus dans tout ce qui est populaire. On a fait punk, électro.
Ouais,
on a fait.
On fait des melting pot de
peintre. On a quand même eu des choses marche à gauche.
Il y a pas qui va.
Des musiques du monde avec les plus gros guillemets, alors qu'on va parler de musique classique,
oui,
qui est aussi
ça.
Un terme détesté, néoclassique également. On en parlera plus tard.
Mais je pense que là, on nage dans quelque chose qu'on connaît vraiment pas, fait que c'est un peu déstabilisant.
Moi, j'ai quand même... J'adore la musique classique. Je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses, mais je trouve que c'est un univers tellement riche puis un peu déroutant pour quelqu'un qui n'en connaît pas plus que, mettons, les classiques qu'on entend dans les films ou dans les Looney Tunes, parce que c'est un peu comme ça que je les ai découverts quand j'étais jeune.
Oui, oui.
Puis les Tom and Jerry, fait que c'est ça, moi, qui m'a introduit à la musique classique.
Les gens sont d'un fois un peu pétus de beau. On associe beaucoup ça aux gens riches parce que ça coûte cher aller à l'ESM, quoique il y a beaucoup de rabais pour les personnes de moins de 30 ans. Mais même dans la littérature scientifique, la musicologie, les interprètes, on va appeler la musique classique la musique savante occidentale.
Ah oui.
Puis ça, souvent, on va commencer à parler de musique savante au moment où ça va commencer à être de la musique qui est écrite. Fait que même la musique ancienne, la musique médiévale, ça va presque être dans une catégorie à part, ce qu'on va respecter
déjà
aujourd'hui.
Déjà un peu
pétu
de brousse, si tu t'appelles ta musique savante, déjà
exact.
En partant. Là.
Puis éventuellement, ils ont rajouté l'occidental, parce qu'effectivement, quand on parlait de musique classique, on parlait bien évidemment que de l'Europe, et éventuellement de l'Amérique, surtout les États-Unis, mais ça reste un art qui est très européen. Puis quand on écoute la musique classique arabe, par exemple, ben c'est ce qui est considéré de la musique ancienne en musique classique, puis c'est un répertoire qui a beaucoup moins évolué à travers les époques, qui est resté plutôt sur un ensemble de mélodies. C'est pas les mêmes échelles de notes, c'est pas les mêmes instruments, fait que y a quand même quelque chose de complètement différent. Puis je m'y connais pas pantoute en musique asiatique, fait qu'on ira même pas jusque-là dans mes explications. Mais donc, musique classique, on va vraiment parler de l'Europe, puis aujourd'hui principalement de l'Allemagne puis de l'Autriche, parce que c'était ça dans le temps.
C'est fou, parce que, tu sais, nous, jusqu'à maintenant, ce qu'on a mis, puis je dis pas ça pour nous rabaisser, là, mais c'est une révélation que j'ai eue, on parle de musique des 50 dernières années, là. Puis, tu sais, pour moi, c'est qu'est-ce que... Déjà, ça, j'ai de la misère à me sentir connaisseuse ou me dire que je connais bien la musique. Puis là, si on tombe dans la musique classique, on est comme dans les
on
500, 400...
On est à plus
400.
Que 50.
Ouais, fait comment couvrir ça? Comment s'introduire?
Ben, 500, non. Je pense que la pièce la plus vieille qu'on va diffuser aujourd'hui, c'est 350 ans, 400 ans.
Okay.
On va pas vers le 5-600. 5-600, c'est vraiment rendu pré-baroque, Moyen-Âge. Là.
Puis moi, j'étais intéressée à savoir, parce qu'on t'a demandé, fais-nous les bases, là, c'est en un, là, le classique pour les nuls.
Ouais.
Comment tu t'es pris, tu sais, pour sélectionner les œuvres que tu veux nous présenter?
Au début, je suis allé vraiment trop large. Je me suis dit, je vais y aller vers les principaux compositeurs, puis on va se parler de trois mouvements, donc la musique baroque, très rapidement en ouverture, la musique classique puis le romantisme. La musique baroque, c'est ce qui est venu entre la musique du Moyen-Âge et la musique classique. C'est là qu'on va commencer à entendre des traités sur la musique, comment faire des accords, quels sont les... On va transformer la musique en science justement pendant le siècle des Lumières. C'est beaucoup à Florence, c'est beaucoup en France que ça va se développer comme musique. Donc, musique baroque. Et puis, au moment où on va arriver vers une Europe qui est plus cosmopolite, bien là, on va commencer à s'en aller tranquillement, pas vite, vers le classique. Ce qui fait que des gens qui ont un peu passé plusieurs époques, Mozart avait commencé vers la fin du baroque, qui est devenu comme le grand nom du classique, on va en reparler tantôt. Beethoven a commencé comme un classique, a fini comme l'un des plus grands romantiques. Schubert a été influencé par Mozart, mais a surtout été un romantique. Puis on va également se mettre une toune de Bach vers la fin, qui lui a été autant du baroque que du classique, parce que on n'a pas le choix de nommer Bach non plus.
Super, fait qu'on embarque. Est-ce qu'on
a un bac?
Oui.
Oh boy.
C'est lui qui l'a fait, c'est pas moi. On en bac avec tout ça.
OK.
Toi, ben, ouais, je pense qu'on l'a dit un peu notre rapport à la musique classique. Moi, j'ai honte de le dire, mais tu sais, c'est de la musique de background. Fait que, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps à l'université.
T'es pas la seule.
J'ai beaucoup écouté, on va en parler plus tard, mais Jean-Michel Blais. Tu sais, en même temps que je faisais mes études universitaires, mon doc, c'était comme l'âge d'or du néoclassique. On va critiquer ce terme-là, mais Jean-Michel Blais, Alexandra Skelinski, ça a été dans mes oreilles. Sinon, le Requiem de Mozart, je l'ai écouté beaucoup, Chopin, tout ça. Mais tu sais, j'ai jamais été seule avec des écouteurs à écouter du classique puis à l'apprécier à ça, justement. Alors,
mais t'en as-tu vu à l'OSM?
J'ai vu Jean-Michel Blais.
Ah, ok.
Non, mais j'ai aussi vu... j'ai vu le Requiem de Mozart donner un concert gratuit de l'OSM au Stade olympique.
Okay.
Pas au stade, mais à l'extérieur.
Ouais, sur l'esplanade.
Mais dans à l'OSM, genre dans la salle classique, là, c'est magnifique à entendre. Tu réalises à quel point... Déjà, le départ, quand tu t'assois et qu'ils sont en train de s'accorder...
Moi, c'est mon moment
préféré. C'est magnifique, ce moment-là. Là, on dirait que tu assistes à une messe de gens. Là, tu t'assois, c'est sacré ce que tu vas écouter.
C'est des concerts, en plus, quand ils jouent avec l'orgue, que là, tu as vraiment la salle au complet qui est utilisée. C'est
magnifique.
Malade.
Le son, il vaut la peine. En fait, la musique classique vit dans ces salles-là, je trouve. T'sais, ça sonne bien dans nos écouteurs, mais... voir ça dans une vraie pièce conçue.
Voir 50 personnes jouer une composition au lieu de l'entendre sur un
P3. C'est incroyable.
Ah oui, c'est clairement une autre expérience. Je pense que c'est un des publics les plus respectueux aussi. Là. Puis apparemment, ça change, ça évolue. Mais... Ouais, mais moi, c'est un public que j'aime. J'aime quand les gens sont respectueux et ne parlent pas pendant la présentation. Fait que je pense que.
Il n'y a pas quelqu'un au fond du bar qui se commande une 50 en criant bien fort pendant une des pièces que tu
vois. Non. Sinon, j'ai vu des ballets. Tchaïkovski m'a vraiment fait pleurer.
Voilà, le ballet, ça rentre dans la... On parlera pas de l'opéra, on parlera pas du ballet, parce que ça commence à faire beaucoup.
On
mais c'est d'autres éléments de ce grand corpus classique.
Puis peut-être avant, Mathieu, tu pourrais dire une petite minute pourquoi tu connais tant le classique.
Moi, j'étais vraiment fan quand j'étais ado, puis que les gens écoutaient du Blink ou du The Used ou Black Parade, ben moi, j'écoutais du Mozart à côté. puis éventuellement, j'ai un diplôme en musicologie, puis on avait parlé quand même.
Est-ce que tu joues d'un instrument aussi?
Non, j'ai joué de la bass pendant quelques années. Je faisais des covers des trois accords dans un band de screamo au secondaire.
OK, fait que t'écoutais pas juste du Mozart, là. t'étais aussi au courant de ce qui se passait.
Ouais, au secondaire, ça changeait un peu, mais mettons, primaire, début secondaire, là, j'étais très, très Mozart.
Je comprends. Parce que c'est quand même, une fois que t'embarques là-dedans, comme tu dis, toi, Eliane, t'écoutes ça en background ou quand t'étudies, mais c'est vrai que c'est comme un confort, la musique classique, puis je comprends pourquoi souvent les gens s'en vont vers là quand ils veulent être enveloppés par une espèce de couche sonore pendant qu'ils veulent se concentrer. T'sais, c'est vrai que ça aide. T'sais, t'as pas de paroles, c'est des mouvements. Des fois, c'est sans... Il y a pas de mots, mais ça nous fait vivre des émotions pareil. Puis c'est ça que je trouve magnifique. Puis c'est souvent, tu sais, moi, en tant que gars qui trippe sur le métal, je trouve qu'il y a bien des... Il y a bien des pièces qui me font penser à hey, si tu joues ça avec une guitare électrique, ça devient du métal. Puis il y a eu plein de preuves dans la musique populaire que tu entends les influences classiques.
Tu vas parler de Britney.
C'est ça. Ça s'en vient. Long, tout le monde va parler de Britney tantôt. Vous allez voir, il y a un lien.
Donc, sinon, juste au secondaire, j'ai fait partie des orchestres, je jouais du saxophone.
Là, j'aimais vraiment ça. De mieux en mieux.
J'essaye de retrouver les partitions de ce qu'on jouait parce que j'aimais vraiment ça. Puis c'était spécial là, de faire partie. Puis on n'était pas super bons.
C'est souvent des orchestres de secondaire.
Oui, je crois qu'on a peut-être joué un extrait de La Flûte enchantée, mais version était très, très synthétisée. Ouais. Mais c'était magique aussi d'en faire partie, même si on n'était pas bons. Là, on a déjà fait des compétitions, puis on entendait les critiques, puis on était vraiment... On avait des croûtes à manger. Puis là-dessus, on peut y aller vraiment dans le fait classique. on n'a plus de croûtes à manger maintenant qu'on est avec Mathieu.
Oh.
Est-ce qu'on s'envole vers... Pourquoi j'ai dit envol? J'ai aucune idée. Est-ce qu'on s'en va vers une pièce musicale?
On peut aller vers la première pièce. Je suis allé dans une des pièces les plus marquantes du baroque, pour vous mettre un peu dans le thème. Ça s'appelle « Les Folies d'Espagne ». À la base, c'est un thème musical qui avait été composé au Portugal, qui a été repris par des compositeurs espagnols, qui a éventuellement fait son chemin jusqu'en France, où des compositeurs comme Marin Marais et Lully, qui était le compositeur du roi de France, ont composé des variations et puis finir là-dessus. Les Italiens se sont mis là-dedans. Et donc, ça a été repris et repris et repris et repris à un nombre difficile à calculer parce qu'on a perdu beaucoup donc de compositions de musique de cette époque-là. On se parle ici du 17e. Et finalement, ça a continué quand même de faire son chemin par la suite parce que Bach a composé des variations là-dessus. Beethoven l'a fait, Rachmaninoff l'a fait. Et dans la musique populaire, on s'en reparlera après avoir entendu la pièce. Il y a eu pas mal d'utilisations aussi.
Alors là, on va aller entendre improvisation sur les Folies d'Espagne.
Ça, c'est une pièce de Marin Marais, mais ici interprétée par l'éminent Jordi Savall.
Parfait. Alors, on écoute ça. On revient tout de suite après. On est à Effet Sonore à CISM. On est déjà de retour.
On est déjà de retour, oui. On a mis des extraits ou des courtes pièces. Là.
Oui, parce que
ça dure genre 25 minutes.
Ouais, c'est ça. On aurait mis un concerto, oui. Ça aurait été tout. Là, fait que...
Alors, vous êtes à CISM, on écoute du classique à effet sonore. On vient d'entendre improvisation sur les Folies d'Espagne de Marin.
Marin Marais.
Tu disais que c'était ton instrument préféré?
C'est la viole de gambe, oui. qui est l'instrument qui est utilisé là, qui est une genre de proto-violoncelle qui se joue avec un archet. Tu peux taper les cordes, tu peux frotter les cordes, wow. Puis tu peux jouer avec tes mains aussi. Fait que ça donne un jeu qui est vraiment plus souple puis qui est très rapide, comme vous l'avez entendu. Ça, oui. C'est une pièce, donc Marin Marais qui avait fait des improvisations sur une pièce. Le thème le plus connu, c'est celui de Corelli. Qui, à l'origine, avait une tourne comme ça, mais qui durait 9 minutes. Ça a été repris donc par pas mal de monde. D'ailleurs, si vous êtes des fans de Stanley Kubrick sur Barry Lyndon, la pièce titre qui est utilisée, c'est une variation sur la Folia, donc les Folies d'Espagne. Et dans l'ère plus récente, il y a notamment... Il y a plusieurs trames de films qui ont réutilisé ça, mais il y a aussi une chanteuse qu'on connaît, qu'on adore.
Et qu'on aime,
évidemment.
Au début, quand tu disais l'affaire de Stanley Kubrick, je pensais que tu parlais d'elle.
Non.
Il y a des fans de... Ouh, c'est oui, sûr que oui.
Kubrick et Britney, ça doit se voir.
Ben, ça se peut. Alors, tu disais que...
On va écouter juste le thème du refrain de Oops, I Did It Again. Là, je ne vais pas commencer à vous parler des notes et tout ça parce qu'on va essayer de rouler sur d'autres affaires. Mais si vous réécoutez la pièce et que vous écoutez ça, c'est les mêmes suites d'accords utilisées, mais dans une formule différente. À partir de maintenant.
Ça devient plus dramatique maintenant qu'on le sait.
Oui, fait que vous irez réécouter la pièce de Jordi Savall et ça, back à back.
C'est assez, le compositeur en Suède là, qui a fait cette chanson-là. Je ne sais pas son nom, mais c'est lui qui a fait toutes les tunes pop des années 90. Il connaissait ses classiques.
Max Martin, exactement.
Je connais ma pop.
Oui.
Puis lui connaît son classique.
Wow. Wow, je
suis contente d'avoir mis du Britney. Je me demandais juste, tu sais, pourquoi cette pièce-là pour représenter le baroque? Parce que c'est celle qui a été le plus reprise, c'est celle qui est le plus emblématique. Ça a été énormément
utilisé, puis le baroque, souvent, l'image, c'est que les tunes vont finir en « tan, tan, tan ». T'as tout le temps, à peu près la même, ils finissent toutes les tunes tout le temps de la même façon. C'était comme la façon d'expliquer que la chanson finissait. Puis quand t'écoutes, par exemple, des pièces dramatiques, des opéras de Monteverdi, ben tu sais que la pièce tourne, termine parce que ça finit avec le même motif tout le temps. Fait que
c'est un truc pour reconnaître. Pour reconnaître le baroque. C'est...
Oui, et fiez-vous pas au son que je viens de faire, mais le baroque est assez. c'est très, très carré comme musique. Là.
C'est comme écrire The End à la fin d'un film.
Exactement.
C'est la fin. Exactement. OK, je comprends.
Puis là, on va aller vers le prochain mouvement qui est celui du classique. Puis c'est quoi le lien? Comment on. Ben, on sait que
on y va en plus dans le désordre, en plus, là, sur la feuille.
C'est chronologiquement dans le désordre, c'est ça?
C'est chronologiquement dans le désordre. C'est que là, on voulait y aller, bien évidemment, avec le. On vient de se parler du baroque, mais je pense que ce qui définit le plus la période classique, puis surtout romantique, c'est la symphonie. Qui est comme le terme qu'on utilise ou qu'on entend être utilisé le plus souvent quand on parle de musique classique. Puis ça, ben, c'était pour un compositeur l'achèvement, comme la meilleure chose que tu pouvais faire. Mais aussi, si tu ne l'avais pas fait, ben,
t'es
personne. Puis après ça, tu avais Mozart qui en a genre 94. J'exagère, mais qui en a une shit tonne en bon français. Puis t'en as d'autres comme Schubert qui en ont fait moins, mais qui ont été particulièrement marquantes, dont la huitième qu'on va l'entendre, la Unfinished Symphony, la symphonie inachevée. Pourquoi? Non, pas parce qu'il est mort. La théorie, c'est qu'il a appris qu'il avait la syphilis à peu près à l'époque où il était en train de composer. Il aurait probablement déprimé une couple de semaines, puis il a composé d'autres symphonies par la suite et jamais revenu sur celle-là. C'est celui qui est la plus connue, qui a été utilisé dans beaucoup de films également. La ligne de clarinette que vous entendez là-dessus est malade. Je suis un gros fan de clarinette, je suis un gros fan de vent.
Il jubile en ce moment.
Clarinette, basson, je suis un gros fan de la texture de ça. Ben, exact. Fait que là, vous écouterez ce qui se passe là-dessus.
Fait qu'on y va avec Schubert, symphonie numéro 8.
Exact. Ça va vous donner un bon exemple de ce qui est un début de mouvement de symphonie, qui ça est le premier mouvement de 3.
Donc, allons-y avec... Schubert et symphonie numéro 8. Ah, c'est ISM!
Yes! Thank you.
Vous n'êtes pas Radio Classique, vous êtes à CISM.
Défunt Radio Classique, j'étais... Ma radio roulait 24 heures sur 24 sur Radio Classique.
Ça me fait... Ouais. En tout cas.
CGPX.
Ouais.
RIP.
RIP. Fait que c'était... c'était Schubert avec la symphonie numéro 8 que tu disais qui était inachevée, c'est ça?
Qui est inachevée, effectivement. Il y a la coupe au milieu du troisième mouvement.
Puis moi, ma question que je t'ai posée pendant qu'on écoutait cette pièce, c'est qu'est-ce qui distingue... le mouvement classique des autres mouvements. Fait qu'on a parlé du baroque, maintenant, classique, comment qu'on peut...
Le baroque, par quoi ça se distingue? Mettons que je peux te donner quelques éléments de plus, parce que le classique, au final, c'est comme le neutre, un peu. C'est comme le milieu de tout. Le baroque, on était vraiment donc dans un esprit scientifique, donc c'était beaucoup de contrepoints. Qu'est-ce que le contrepoint? C'est plusieurs mélodies qu'on va empiler une par-dessus l'autre, de sorte que ça se réponde sans se marcher par-dessus. Puis le baroque, c'était surtout une époque de, viol de gambe, certains instruments, les premiers bons violons, des trucs comme ça, mais c'était surtout l'époque du clavecin et de l'épinette, qui est une variante du clavecin. Le classique, là, on se parle plus de 1750, 1815, 30, là, c'est l'invention du piano, qui va permettre d'avoir des mélodies qui sont plus claires. Donc, on va être moins dans 14 lignes musicales l'une par-dessus l'autre. On va plus être dans les longues lignes musicales, des ensembles qui sont plus grands.
Okay. Conçus pour une grosse gamme.
Oui, puis le piano ayant plus de résonance, ben tu peux mettre plus d'instruments avec sans l'enterrer. Donc, on va arriver dans un espace où on va se concentrer plus sur les mélodies puis plus sur le ressenti que sur une musique intelligente, pour le dire comme ça. Puis par la suite, le romantisme, ben là, on va y aller vraiment plus dans la transmission d'une émotion. On va mettre des textes en musique, donc beaucoup de poésie, des poèmes musicaux, ce qui va arriver plus tard. Et c'est là qu'on va vraiment... les orchestres symphoniques vont commencer pendant le classique, mais dans le romantique, c'est là qu'on va arriver avec des orchestres de 40, 50 personnes qui vont vraiment prendre des concerts longs. Pendant le classique, la musique est encore un peu usuelle à certains moments, c'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de musique classique, de musique sacrée plutôt, qui va être jouée dans les messes. C'est ce que Bach a fait la majorité de sa vie. C'est de la musique qui est moins faite pour le divertissement, un peu à l'exception des riches. Puis plus on va finir le classique puis aller vers le romantisme, plus ça va être... plus ça va se démocratiser au niveau de l'opéra, majoritairement.
OK, vraiment. Je savais pas que le piano était plus récent que le clavecin.
Le piano est plus récent.
Je sais pas si c'est moi qui est basic, mais je pensais que le piano précède tout. Même, ça n'a aucun sens parce que c'est plus compliqué de faire un piano qu'une guitare. Là.
Mais c'est vraiment moins compliqué. C'est plus compliqué à faire en termes de caisse de résonance, mais le clavecin, tu as quand même des notes doubles constamment. C'est plus c'est compliqué un clavecin.
Fait que là, selon ce que je vois ici, c'est qu'on va maintenant découvrir le monde de Beethoven.
Oui, exact. Ben là, on y va déchronologiquement. Schubert qui était...
peux-tu nous situer? Il était arrivé...
Schubert est arrivé après Beethoven, pendant son vivant, mais après. Ça a été une inspiration quand même claire.
Ouais.
Beethoven, lui, comme je vous le disais, chevauche le classique, a connu Mozart, ou du moins s'est inspiré de Mozart dans ses débuts, a fait notamment des variations sur des thèmes de la flûte enchantée de Mozart, mais est surtout connu pour ses symphonies. On connaît la 9, on connaît aussi beaucoup sa pièce la 5, la Toccate et Fugue, qui est la pièce qu'on identifie collectivement aux vampires.
Oui.
C'est peut-être celui qui a été le plus utilisé dans le monde cinématographique, Beethoven, ou ouais. qu'on associe le plus, qu'on le sait directement, parce qu'avec Clockwork Orange, avec ouais. le film Beethoven...
C'est clairement c'est celui qu'on qui est le plus reconnaît. Connu.
Tu parles pas du chien, là, c'est ça?
Ben non, je parlais du film de Beethoven, moi, mais il y a la...
Après ça, ça serait malade. Beethoven 12, il devient sourd, puis il commence à jouer des cages, genre.
Je comprends pas que ça n'a pas été fait. Non, non, Denis, pas de chien,
Denis Villeneuve,
de...
c'était à l'écoute, on a une idée pour toi.
On a une idée. Bon,
après okay. d'une 3, Beethoven 12.
Mais je pense que moi, c'est le premier que j'ai connu, le grand nom de la ben, musique classique.
C'est souvent lui ou Mozart dont on va discuter. Fait que, on va aller écouter justement sa pièce qui a été le plus utilisée au cinéma. Puis je pense que c'est officiellement la pièce de musique classique qui a été la plus reprise dans des trames sonores.
Symphonie numéro 7. C'est parti.
C'était notre boy Beethoven à CISM sur effet sonore avant qu'on parle d'un autre boy qu'on aime beaucoup à notre spécial classique.
Oui.
En ordre déchronologique toujours.
Comme ça, vous savez que vous êtes à CISM si on l'introduit de même. C'est vous n'êtes pas trop perdu.
Notre boy Mozart, c'est vrai que les coalliés ne faisaient pas souvent ça à CJPX.
J'ai une question qui vient encore là, de me popper. Oui. Est-ce qu'à l'époque, il y avait plein de compositeurs? Parce que tu sais, on connaît quelques noms.
T'en avais une chier raide. Là. La majorité des...
Ça aussi, on est à CISM quand on parle de ces messieurs-là.
La majorité des cathédrales ou des grosses églises avaient un ou deux compositeurs affiliés. la majorité des riches ou des nobles avaient un, deux, trois compositeurs affiliés. Fait que, c'est-à-dire que, mettons, les ultra-riches, mettons Elon Musk, irait à la chapelle à tous les jours et aurait un ou deux compositeurs qui n'auraient dans la vie que comme covers, job là, de faire une messe différente à chaque jour. Fait que c'est ce que Bach a fait, la très, 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 très vaste majorité de son œuvre, c'est ça. Mais on voit rapidement avec Mozart puis Bach, par exemple, qui ont tellement un énorme répertoire qu'il y a beaucoup, beaucoup de thèmes ou de pièces qui sont reprises, sur lesquelles on sent des variations, puisqu'à un moment donné, c'est comme...
Puis est-ce qu'on a des traces de ces compositeurs-là?
Des autres, ben oui, c'est juste qu'à un moment donné, c'est difficile de se concentrer sur absolument tout, mais mettons qu'on se fait une émission sur un autre genre, ça me ferait plaisir d'arriver avec des noms moins connus.
Okay. Les fans de classique 2,
les inconnus du classique, quelque chose comme ça.
C'est super, mais il fallait commencer avec...
Juste avant d'y aller avec le plus connu d'ailleurs. Là.
Oui, allons-y avec le plus connu.
Oui, Mozart, ben, ce que vous avez entendu, moi je trouve que c'est très caractéristique de Beethoven. Il y a souvent des gros clusters où l'orchestre au complet joue, puis ça fait des bam, bam, bam dramatiques.
Mais c'est ça, moi, avec mon vue maître, là, j'étais genre, OK, là, il faut que je baisse, il faut que je monte.
Exact.
Ça va dans le tapis sans m'avertir.
Mozart le fait aussi, Beethoven est capable d'être léger aussi, mais Mozart est souvent plus rieur. C'est un enfant prodige, c'est un gars qui était extrêmement intelligent, donc il a toujours l'air d'être un peu en train de rire de toi. Quand il fait ses compositions.
C'est le plus jeune de la gang.
Qui a commencé le plus jeune. Ouais. Il est mort jeune également. Schubert est mort un peu plus jeune, je crois, si je ne me trompe pas. Mozart, donc oui, plus rieur, plus volubile, a bien synthétisé la fin du baroque au début de sa carrière pour aller vers le pré-romantisme à la fin. C'est comme le gars qui a réuni toutes les époques. Et puis, je disais qu'il était blagueur et joueur. On va aller écouter deux de ses pièces les plus dramatiques qu'il a fait, mais qui sont aussi à deux moments importants de sa vie. Donc, on va écouter une pièce de son Requiem qu'il n'a pas fini. Il est décédé pendant... C'était pas un Requiem pour sa propre mort, mais on a fini par l'associer au Requiem de son propre décès. Requiem qui a été... terminé par un de ses étudiants et non pas par un autre compositeur, comme on le voit dans l'excellent film Amadeus de Miloš Forman. À écouter absolument si vous ne l'avez pas fait.
On voit son esprit joueur, par exemple. Ça, oui, tu me disais que ça a été bien représenté.
Ça, oui, mais c'est aussi, je trouve, une des meilleures façons de vous initier à la musique classique qui existe en cinéma. Donc, une pièce de Requiem. Pièce qui est d'ailleurs dans BioShock 3.
Oh!
Si vous êtes des fans de gaming, il y a un niveau avec trois séquences du Requiem de Mozart qui est particulièrement le fun. Puis après ça, on va écouter encore plus dramatique l'introduction de la pièce qu'il a écrite pour son mariage.
Donc, on y va back to back. Ah non, mais je voulais dire Mozart to Mozart.
Mozart to Mozart. T'en referas tantôt.
OK, j'en referai tantôt. C'est parti.
Thank you.
C'était l'enfant prodige, Mozart. En fait, je ne sais pas quel âge il avait.
Il était rendu plus vieux.
Ouais, il était rendu plus vieux.
Au moins 8 ans.
Fait que ça, c'était... On vient d'écouter le Requiem. Une partie du Requiem... Ouais. Attends, mais
c'est pas... le Dies Irae de sa messe de Requiem. Puis là, Requiem qui a tout le temps le même enchaînement de pièces. Fait que quand on vous dit Dies Irae, vous savez que c'est la troisième pièce normalement du truc.
Je sais pas, j'avais demandé, c'est quoi la différence entre ça et un opéra? Parce que les voix prennent une place importante, le cœur.
C'est ça. C'est qu'en musique sacrée, généralement, il n'y aura même pas de texte. C'est-à-dire que... ça va être les mêmes textes sur tous les requiem, messes, tout ça. Le Kyrie eleison, ça va tout le temps le Kyrie eleison, Christi eleison qui va être repris.
C'est quoi ça?
C'est Dieu est pitié de nous, Christ est pitié de nous. Okay. Fait que ça, c'est les paroles c'est de la répète. Première. C'est vraiment la musique de la messe. Donc, ça suit les prières qui vont être faites à la messe. C'est juste qu'au lieu de faire la prière tout le monde ensemble, ben, c'est un orchestre qui te joue la prière. Fait que c'est pas des textes dramatiques, c'est pas des inventions, c'est vraiment du...
OK, il y a pas de composition de texte.
Exactement.
On prend ce que Jésus nous a dit.
Exactement.
On le met sur notre background
pareil,
de belle
pareil,
musique.
Pareil.
OK, super.
C'est ce qui va donner que, oui, c'est de la musique vocale, mais c'est pas une musique dramatique. Même si c'est dramatique, ça peut être utilisé dans des films dramatiques, comme la messe en C mineur, qui a été utilisée dans les triplettes de Belleville.
Ah, super.
La scène où elle fait du pédalo dans l'océan Atlantique pour.
C'est pas Ben
Charest
qui a composé
oui,
ça, quelques pièces. Il y a aussi Mozart.
Il y a aussi
Mozart
un
lui.
Bon Mozart là-dedans.
Puis M aussi, non? Il n'a pas chanté.
Ouais,
oui,
c'est lui qui
M,
chante les triplettes de,
fin,
de
ouais.
Belleville. Beau c'est mélange.
Oui.
Je voulais juste dire que je savais quelque chose. OK, continue.
oui, donc Mozart, mais qui dit Mozart puis qu'on veut continuer de régresser, pas en qualité,
mais
en époque. Bien évidemment, Bach. Bach qui, lui, est l'essence même de la composition baroque qui va composer de la musique de chambre. Pas de chambre, il va avoir de la musique de chambre un peu, mais majoritairement de la musique sacrée, de la musique d'église.
Quand tu dis musique de chambre, c'est quoi exactement? Je l'entends
souvent,
ce terme-là.
C'est un petit ensemble. C'est généralement genre un clavecin, quatre cordes, peut-être un ou deux vents, mais c'est rarement plus que cinq ou six personnes sur une pièce. Pourquoi musique de chambre? Ben parce que c'était joué dans les chambres ou les pièces où les riches habitaient. Par exemple, tu allais prendre ton repas, ben tu avais un petit orchestre. Ou le réveil du roi Louis XVI, ben, il avait son petit orchestre qui jouait une musique de réveil.
Son réveil matin.
C'est vraiment la musique de chambre.
Lui, il y avait ces quatre gars qui faisaient du violon. Puis c'est principalement des cordes. Là,
et Lully qui jouait... il n'y avait pas encore de bâton d'orchestre dans le temps. Donc lui, avec un gros crisse de bâton, puis il tapait à terre pour faire la mesure. Fait qu'imagine, t'écoutes du classique où ça fait tac, tac, tac. Et le gars est d'ailleurs mort de s'être tapé le pied.
Avec son
fracturé le pied avec son bâton, ça s'est
saigné,
infecté, il est décédé de sa blessure au pied.
Ben, il est mort en faisant sa passion.
Ils ont changé le bâton par la suite.
Ah, ben ça prend toujours un accident pour corriger.
Exactement. Donc, Bach, lui, à cette époque-là, généralement, le chef d'orchestre était claviériste et donnait donc la note à tout le monde. Ce qui était le gars de Bach... surtout connu bon pour notamment ses variations Goldberg qui bon un ensemble de pièces qu'il avait composé pour un ami dénommé Goldberg, un gars qui lui donnait beaucoup d'argent parce que oui ça paye faire des messes mais c'est pas avec ça que tu vis non plus, surtout quand t'as une famille de beaucoup d'enfants qui sont tous compositeurs. Donc Variation Goldberg, qui dit Variation Goldberg, dit généralement dans l'esprit collectif, la culture populaire, mais bon, culture populaire classique, Glenn Gould, qui est un interprète de musique canadien qui a beaucoup, 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 beaucoup repris ses Variations Goldberg. Il y a d'ailleurs un court documentaire vraiment intéressant de l'ONF qui est accessible gratuitement sur leur site, comme énormément de films. Pour vrai, c'est malade, l'application de l'ONF. Donc, documentaire sur Glenn Gould qui parle avant un concert de son rapport avec Bach, qu'on va l'écouter.
Alors, on écoute du Bach à CISM. C'est parti.
la fin baroque que je vous disais tantôt.
Ouais. Ça.
C'est ça.
On l'a entendu.
Puis comment il se distingue Bach, tu sais, ce qui est... Je pose tout le temps la question parce que je sais pas.
Non,
mais ben, j'ai vu que c'était pas un orchestre. J'ai vu que c'était pas une symphonie. J'ai remarqué le son baroque. Mais pourquoi lui s'est démarqué de tous les autres?
La quantité de composition, mais c'est surtout qu'il a réussi à jouer quand même pour des grosses cathédrales, des mécènes assez riches. Puis souvent, à l'époque, c'était un peu ça. Là. C'était les mécènes qui te mettaient sur la map. Si tu jouais pour tel roi, ben on risque de plus te connaître que les autres. Puis c'est surtout que ça venait aussi avec une sécurité financière, c'est-à-dire que c'est sûr que si t'es pas capable de vivre de ta composition, ben on risque de moins te retenir comme un compositeur parce que t'as moins de trucs qui vont sortir.
Oui,
ce qui a changé avec le romantisme, qui a changé avec l'époque plus contemporaine parce que la méthode de diffusion était différente. Mais dans le temps de Bach, t'avais pas non plus de partition qui circulait. Là. C'était vraiment... tu l'as vu à sa cathédrale ou tu l'as entendu parler par un autre compositeur. Lui, par contre, c'était la rigueur, puis c'est surtout qu'il a composé aussi beaucoup de musique d'apprentissage, de musique scolaire. Fait que t'as ces pièces pour un clavier tempéré qui étaient comme des pièces pour apprendre à jouer, tester ton clavecin pour être sûr qu'il joue bien. Fait que il y a ce côté-là de Bach qu'on a reconnu. Mais c'est probablement un des compositeurs les plus prolifiques de l'histoire.
Puis quand tu l'as fait jouer, moi, tu m'as rappelé Chopin aussi, que j'ai beaucoup écouté.
Chopin
est-ce
qui
que...
est arrivé vraiment
c'est
plus
ça,
tard.
C'est ça, il est plus tard, lui. Il est vraiment pas, mais c'est
du piano.
Chopin
qui est dans les romantiques. Lui qui est sur le piano, Chopin, effectivement, mais justement, là où Bach était sur l'orgue et sur le clavecin, ben Chopin est sur le piano.
Lui a composé directement sur le piano.
Okay. Exact.
Puis j'ai aussi pensé à Debussy.
Ouais.
Lui, si tu où? Je fais juste name drop, c'est juste... que je connais. Là.
Debussy, c'est... Puis
on
là,
en a un peu parlé tantôt.
Ça fait un pont avec les prochains. Debussy est un néo-romantique, mais aussi un néo-classique.
Lui, ça fonctionne. Tout le monde serait d'accord pour dire que c'est un néo-classique.
Sur certaines pièces, là, pas sur l'ensemble de son matériel, mais c'est un autre qu'on connaît beaucoup pour ses compositions au piano. Mais oui... Le terme néoclassique qu'au Québec, on utilise beaucoup pour parler notamment de Jean-Michel Blais, de Strelitzky, de Flore Laurentienne, artiste dans ce type-là, Simon Léoza, quand il y avait moins d'affaires électro aussi. Je suis personnellement pour cette utilisation-là, pour cette réappropriation-là du terme, parce qu'on s'entend que c'est du langage courant, puis quand les gens disent « Ah, c'est de la bonne musique néoclassique », personne parle de...
Debussy.
Des pièces de Debussy un peu moins connues, ou de Fauré, ou des rares bouts où Satie faisait de la musique qui était écoutable. J'adore Satie, c'est mon préféré, mais c'est vraiment... C'est ce qu'appelle la musique fonctionnelle et non pas de la musique pour l'art. Dans ses propres mots. Les référents de ces artistes-là, c'est la musique néoclassique généralement. Fait que même eux vont d'un fois se départir du terme parce qu'il est mieux faire valoir que c'est une musique contemporaine, c'est une nouvelle musique, c'est actuel puis tout. Mais leurs référents sont souvent justement les pianistes français du 18e puis du 19e.
Puis tu as dit que c'était au Québec, mais ça n'existe pas ailleurs, ça veut dire au Canada, aux États-Unis, les compositeurs
aussi,
jeunes
on dirait que le terme néoclassique est vraiment moins placardé partout. Oui, il y a néoclassical, mais on dirait qu'en anglais, il n'y a pas de controverse avec l'ancien terme parce que j'imagine qu'ils réfèrent moins à ces pianistes français, puis nous autres, on a un lien qui est différent parce que la France, puis blablabla. Fait que le terme est moins controversé, disons, ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « new classical » au lieu de « néoclassique » pour s'en départager en anglais, mais il n'y a personne qui va dire « nouveau classique » en français. Ça fait moins de sens. Fait que, personnellement, je suis pour l'utilisation du terme « néoclassique ».
Content, fait qu'on n'est pas trop controversé ici.
Mais il y a peut-être du monde qui va venir me péter à gueule en studio après.
Oui, peut-être.
Ben, auprès, puis, moi, je préfère ça parce que quand on parle de musique classique contemporaine, là, j'ai le contemporain en tête, puis ça va vers des trucs plus expérimentaux. Puis on n'est pas dans ce que je veux écouter quand je veux travailler, rédiger ou lire.
Pas écouter du Chocasson.
Non, c'est pas, ça va pas m'aider dans ma concentration. Ce que je veux, c'est exactement Jean-Michel Blais.
Ouais.
Je pense que pendant que je faisais ma thèse, il était toujours dans mes 5 artistes Spotify les plus écoutés. Je l'ai remercié dans ma thèse, là, dans la première page.
Ouais,
il m'a vraiment accompagné tout le long de cette épreuve. Puis on va peut-être en écouter, justement.
On va écouter un petit peu de...
Ça part derrière, justement.
Ça part, tu sais, tu vois, c'est Fade In. On a Yanni ici, de Jean-Michel Blais. On va le laisser rouler un peu pendant qu'on revient.
De... C'est de la version symphonique de Jean-Michel Blais, parce qu'il a commencé avec des pièces au piano. C'est fait démarquer en 2016, je pense. Il avait été nommé dans les 10 meilleures années. De... 10 me...
Les 10 meilleures années.
10 meilleurs albums
du New York Times. Top 10 des
meilleures années. Jean-Michel Blais, numéro 6.
Imaginez s'il faisait ça là, comme si c'était une expérience universelle. L'après-guerre.
Je suis content parce que tu as choisi la pièce la moins néoclassique de Jean-Michel Blais. Là, on est plus dans la musique minimaliste répétitive américaine des années 70.
C'est parce qu'il y a un spectacle,
moi qui voulais
c'est
vraiment
celle qui
être too much, là.
Qui sait, qui sait,
non, mais ça, c'est très, très... c'est très, j'étais très Philippe Glass. Et, c'est
dont on aurait pu parler
dont
aussi,
on aurait pu
Philippe
parler,
Glass.
Mais c'est ça.
J'avais vu Jean-Michel Blais dans un show surprise à la noce. Il était dehors le matin dans un des sites de la noce où c'était le show surprise. Puis juste avant chaque pièce, il disait, là, écoutez bien, je vais faire ça. Il y a une note que je vais tout le temps ramener. Puis là, quand il joue, puis là, t'entendais les notes revenir à certains moments. C'était le fun d'expliquer un peu, tu sais, il vulgarisait sa musique. Justement,
c'est vraiment important de le faire. Flore Laurentienne le fait aussi parfois en expliquant justement c'est quoi une fugue, un canon, whatever. Puis je pense que c'est avec des shows comme ça qu'on va finir par intéresser.
Oui, parce que c'est quand même
pas
un
comme
langage.
L'OSM fait radio-radio. Ça, je ne sais pas qui ça va intéresser à la musique classique.
Qu'est-ce que tu dis? L'OSM fait radio-radio?
Oui, ils font radio-radio dans pas long. Là, genre, comme Voivode viennent de faire Voivode symphonique.
Mais
ils
je pense que c'est
radio,
avec ça qu'ils
radio.
Vendent des billets, les spectacles pop.
Oui, mais y a-t-il du monde qui vont voir radio-radio?
Mais Jacuzzi en version...
Hey, tu viens de me causer des cauchemars, là. Je vais plus dormir. Là.
Je sais pas comment tu peux faire ça.
Moi, j'ai vu le hip-hop, j'ai vu Fouki puis l'orchestre symphonique jouer ensemble.
Fouki, c'est celui que ça sortait le mieux de toute la gang.
Ah, t'étais là aussi?
Oui.
J'ai adoré le début quand ils reprenaient les grands classiques du hip-hop
Dead
avec O'Bee, l'orchestre.
Ça allait
là.
Pas pantoute.
Ah non?
Puis Corias n'était pas là, malheureusement.
Vince a essayé de faire des parts de Yes.
Hein?
Puis il s'est flex lui-même au milieu de la première toune. Genre, il a arrêté au milieu de sa phrase, il a vu que ça marchait pas du tout.
Uh-huh.
Puis il s'est juste reculé tranquillement,
oh
pas vite,
un
jusqu'à sortir du stage. C'était fou,
stage.
Là.
Okay. J'ai soit pas remarqué que c'était pas le même spectacle parce qu'ils en ont fait
deux,
trois
ils en ont fait deux,
soir.
Ouais.
Mais pour revenir à Jean-Michel Blais, Alexandra Strelinski, tu sais, dans les dernières années au Québec, c'est vraiment eux qui ont démocratisé la musique classique, qui ont brisé des frontières et ont amené tout un nouveau public.
Mais Alexandra qui gagne artiste féminine. Artiste de l'année à la disque aussi, ça m'a...
Qui est en nomination pour toutes les...
Qui est allé au Grammy, ouais. qui a composé wow. pour Jean-Michel Vallée. Puis dans les deux cas, ces deux personnes-là sont tellement accessibles. Ils ouais. parlent de la même manière que nous. Ça aussi, ça aide à démocratiser le mouvement puis le rendre plus accessible à plein de monde quand tu n'en parles pas avec les termes techniques, quand tu ouais. l'expliques de façon à ce que les gens te comprennent, comme... même s'ils n'ont pas de formation ou ils ne sont pas des fins connaisseurs.
Ouais, c'est comme quand j'étais un peu plus jeune, j'avais vu Nagano à... Tout le monde en parle.
Qui ah oui, mais pour... ça, c'était le meilleur oui. communicateur ouais. qu'on a jamais eu au Québec.
Là. J'aurais aimé ça qu'il me parle pendant 3 heures de tout ce qu'il connaît, puis comme il vulgarisait bien, puis moi, ça me donnait le goût d'en écouter après de la musique classique. Mais c'est ça qui est un peu épeurant avec ça, c'est que c'est un langage musical sans mots, puis quand ouais. tu comprends pas ce que tu entends, c'est...
Exact.
La musique dure puis, deux fois plus longtemps.
Il y a le stress qu'il y a tellement de compositeurs, comme tu disais ouais, tantôt. Il y en ouais, a ouais, énormément ouais. qu'on ne connaît pas, que d'un fois, juste de s'introduire à « bon, c'est quoi que je devrais écouter en premier? » Puis c'est qui que je dois écouter pour bien comprendre toutes les nuances? Ben là, on a vu les 5 gros noms, mais tu sais, il y a beaucoup d'autres gens qu'on ne s'est pas rendu jusqu'à Chopin, on s'est c'est pas Liszt, rendu moi, jusqu'à Liszt. Ouais.
Puis j'aimerais rappeler Liszt, qu'à travers comme
la rock star.
Moi, je l'aime, oui.
Ce que je voulais dire, c'est qu'à travers Schubert, Beethoven, Bach, on a aussi mis Britney Spears aujourd'hui.
Oui, oui, ben ça, c'est important. Oui. C'est une nouvelle classique. C'est
oui, ça, elle aussi, ça fait mais du néoclassique à sa manière.
Puis, on va terminer avec une autre pièce.
Oui.
Flore Laurentienne, qui fait partie de la gang dont on a parlé. Qui,
lui, se revendique vraiment là, de la musique classique plus que les autres. Sous une forme vraiment plus expérimentale que les autres aussi, mais lui utilise vraiment des termes fugue, canon, étude timbrale, tout ça. Fait que,
alors, on a la pièce.
C'est un petit faible pour volume 1, cet album-là.
Donc, on va tirer un extrait de voici volume 1.
Cendrillon.
Cendrillon. Est-ce qu'on revient après ou on oui, souhaite on peut... à la semaine prochaine?
On peut revenir pendant et dire à la semaine prochaine.
OK.
Voici un bout de...
Exactement de même sur le même ton, s'il te plaît.
S'il vous plaît, évidemment. Voici Flore Laurentienne.
Semaine prochaine.
C'est dit. Alors, c'est ça, c'était.
Merci, Mathieu, d'être venu nous parler de musique ASMR. Classique.
Ouais, voulais... Ça me fait plaisir d'être venu parler de musique classique.
Oui, c'était très, très intéressant. Ouais, puis, comme tu disais, il y a trop de. Tu sais, on n'a pas le temps en une heure là, de juste tout couvrir.
Non.
400 heures de musique.
Ah, moi, je pensais qu'on aurait pu le faire en 10 minutes, mais non, ça n'a pas.
Y a du monde qui le font, genre des capsules en 10 minutes, mais oui. C'est rare que tu ressors de là en ayant compris tout vraiment compris. Quelque ben chose. Oui.
C'est ça. T'as raison. Donc, merci beaucoup, Mathieu, d'avoir passé.
Ça me fait plaisir.
Si vous avez aimé ça, écrivez-nous des petits mots sur Instagram, par email, c'est bien le fun.
C'est Saint-Valentin, envoyez-moi des ça. Mots, là.
Ah oui, oui, parfait. Puis, la playlist sur Spotify, si vous voulez écouter tout ce qu'on a mis. Les épisodes également sont tous là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode d'Effets sonores. Au revoir.
Merci. Bye-bye.